Eh oui, la touche du coach, comme chaque semaine. Bonjour Valérie Dupuis.
Bonjour Didier.
Comment ça va?
Super.
Ah bah, comme d'habitude, c'est cool. Ce matin, on va parler de quelque chose d'un petit peu moins léger que parfois. Mais en même temps, il n'y a pas de mal à en parler, puisque
non,
ça peut s'avérer très utile et très important. Le sujet du jour, c'est comment accompagner au mieux un proche qui vit ou traverse une maladie longue, lourde et ou chronique.
Oui, alors Didier, vous le savez, j'accompagne quotidiennement les patients qui traversent l'épreuve de la maladie et particulièrement celle du cancer. Et c'est vrai que j'ai moi-même vécu l'expérience et j'ai aussi personnellement accompagné mon beau-père qui a lui aussi été touché par cette maladie.
Quand vous dites j'ai moi-même
j'ai moi-même eu un cancer.
D'accord.
Et donc c'est vrai que j'ai vécu les deux côtés de la barrière. Je sais que c'est pas toujours facile de gérer la relation avec ses proches lorsqu'il y a une souffrance tant physique qu'émotionnelle. Autant du point de vue du patient que ou de la personne touchée que de l'entourage. Et donc c'est vraiment pour ça que aujourd'hui, j'ai envie de vous partager des pistes pour aider toutes les personnes qui accompagnent un proche justement tout au long d'un cancer ou d'une autre pathologie lourde chronique ou en tout cas toute personne décidément qui souffre dans son corps. La vraie difficulté pour l'entourage, c'est vraiment le volet émotionnel. Parce que, en effet, l'entourage le plus proche, le plus intime, comme le mari, les enfants, etc., mais même un cran plus loin, les amis, etc., est aussi très touché émotionnellement.
Bah, les amis, c'est la famille qu'on choisit en même temps.
Exactement, hein, tout à fait. Et finalement, ils ont aussi peur que le patient. Mmh. Et donc, c'est pas toujours évident de se positionner par rapport à ce que, en tant que proche, on peut ressentir. Et du coup, on ne sait pas trop comment réagir.
Il y a l'aspect peur et il y a aussi l'aspect empathie, dans la mesure où quand on aime les gens et qu'on les voit souffrir, c'est juste insupportable.
C'est très difficile, oui, tout à fait. Et ce qui est déjà la première chose que j'ai envie de dire en fait à toute personne qui accompagne un proche, c'est que toutes les agressions, si je peux appeler ça comme ça, que l'on peut recevoir de la part de la personne qui vit la maladie, déjà, il ne faut pas le prendre pour vous. C'est hyper important parce que quand on n'est pas bien, mais on sait pas être bien avec les autres, on sait pas être sympa, on sait pas être jovial, on sait pas... Je veux dire, quand on a la grippe, simplement, c'est une expérience courte de souffrance dans son corps, eh ben, on n'a juste pas envie d'être souriant, on n'a juste pas envie de mettre des formes et des rondeurs.
Et parfois, on n'en est pas capable, tout simplement.
Et puis, exactement. Et donc, c'est important déjà de prendre du recul par rapport aux phrases et aux mots qu'on peut entendre de la part de la personne qui est malade. Et... une autre chose que je trouve hyper importante, en tout cas, moi je le vois beaucoup dans ma pratique avec mes patientes, c'est que on a chacun notre quart du monde. On a chacun notre perception de la maladie. Et par exemple, je vais vous parler du cancer parce que c'est un sujet que je connais particulièrement bien. Le cancer, lorsqu'on entend ce mot, ça évoque certaines choses dans l'esprit des uns, mais d'autres choses dans l'esprit des autres. Et si...
encore que je pense qu'on fait l'unanimité, le mot cancer est un mot qui, à lui tout seul, ouvre les portes à toutes les frayeurs, à tous les fantasmes négatifs, s'il en est.
Oui, tout à fait. Mais par exemple, on développe des croyances autour des pathologies, et il suffit que votre croyance soit différente de celle de la personne qui le vit, et du coup, vous allez avoir un espèce de conflit d'intérêts dans votre façon de communiquer autour de ça, dans votre façon de voir les choses. Et donc, mon conseil par rapport à ça est vraiment de demander à la personne qui vit la maladie, lui dire « Ok, comment toi tu vois les choses ? De quoi est-ce que tu as besoin pour que je puisse être la plus adéquate et la plus comme il faut pour pouvoir vraiment t'accompagner et... »
Est-ce
être...
que la personne est, je m'excuse de vous interrompre Valérie, mais est-ce que la personne est vraiment à même de répondre? Je sais que moi je vais pas faire un jeu de rôle, mais c'est vrai que j'aurais tendance à dire mais rien, pas laisse-moi tranquille, mais tu n'as pas à souffrir de ma souffrance, etc. Donc j'aurais tendance pas à donner des pistes en disant je voudrais que tu sois comme ci ou comme ça. Je pense que la personne est aussi empathique et elle se rend compte que c'est elle le problème et qu'elle aura peut-être plutôt tendance à dire mais non, laisse tomber, reste comme tu es, alors que ce n'est peut-être pas la bonne option.
Oui et non. Ce que je veux dire par là, dans l'idée, c'est de communiquer en fait. Mm-hmm. Parce que si on n'est pas dans la communication, on va mettre il y a un espèce de malaise qui va s'installer dans la relation. Et quand on est malade, on a besoin d'avoir des moments de complicité, d'avoir des moments de joie, de se connecter à autre chose que la maladie. Et si la relation est biaisée parce que l'autre ne sait pas comment s'aborder les uns les autres, ben finalement en fait on profite pas de ces moments de complicité et de ces bons moments qu'on pourrait traverser avec la personne et justement sortir un peu de ce côté malade, traitement, etc. Et donc c'est là l'importance de communiquer sur ok, aujourd'hui je me sens pas bien, mais j'ai pas besoin que tu me conseilles, j'ai juste besoin que t'entendes que là je me sens pas bien, maintenant tu le sais, j'ai juste envie de passer un bon moment avec toi. Mmh. Et du coup la personne qui l'accompagne sait que le malade, c'est difficile de...
Je comprends bien que le
malade n'a pas besoin d'être conseillé, elle a juste besoin de sa présence et de passer un bon moment.
Mais alors, voilà, pour rebondir là-dessus, et on a tous notre vécu, évidemment. Moi, j'ai eu la chance de ne pas le vivre personnellement en tant que malade, mais j'ai quand même accompagné certaines personnes qui l'ont été. Et donc, c'est un petit peu compliqué, parce que c'est l'autre versant, et vous m'avez dit, vous l'avez vécu des deux côtés. On se sent parfois inutile, on est dans l'empathie de la souffrance de l'autre, ou de son état de maladie, avec tout ce que ça importe, notamment dans le cancer, parce que effectivement, le cancer évoque toujours la mort, ouais, et etc. La peur de la mort, bien sûr. Et donc, si la personne que j'accompagne me dit « Mais non, t'inquiète pas, je suis juste pas bien », etc. Moi, en tout cas, je le reçois comme « Elle a pas envie de me déranger ». Alors, j'avais tendance à me dire « Mais non, elle dit ça pour me rassurer ou pour que je ne sois pas trop involved, concerné. Mmh. » Est-ce que vraiment, c'est le fond de sa pensée? Et donc, on reste toujours entre...
Mais c'est là que la communication est importante. C'est là qu'il faut pouvoir arriver à, mais de la part de la personne qui vit la maladie que de l'accompagnant, arriver à dire mais non, j'ai juste besoin de vivre un bon moment, de savoir que t'es là pour moi, que tu m'aimes avec ma souffrance, mais je veux juste vivre un bon moment et me sortir de ça. Vous savez, les patients qui sont qui vivent des effets secondaires lourds, etc. Et j'avais déjà parlé de ça dans une chronique sur la pensée positive. Hein, plus on focalise son attention sur la chose qui va pas, plus elle va prendre de l'ampleur. Et donc finalement, si avec la personne qui l'accompagne, on arrive à sortir de ça, eh bien, je vous assure, c'est vraiment puissant. Comme eh ben les choses vont aller mieux et la personne va se sentir mieux. Que si c'est pas tant renier les choses, parce que la pensée positive à outrance est toxique parce que on renie les émotions. Mmh. C'est vraiment l'idée d'accueillir ce qui est. Là, c'est difficile, mais par contre, mon besoin, c'est de passer un bon moment.
Parce que c'est vrai que et je reparle de mon expérience personnelle, qui n'est pas non plus la, je dirais, celle du commun des mortels. Hein. Chaque cas est précis, je dirais, et distinct. Mais je me souviens d'avoir pensé, mais finalement, c'était pas dans mon couple, hein, mais je vivais ça avec une personne de laquelle j'étais très très proche, et je me disais mais finalement on vit tout le temps à trois, c'est-à-dire elle, moi et son cancer, et parce que elle en parlait beaucoup, donc à un moment je me souviens que j'avais pété un plomb en disant mais il y en a marre, est-ce qu'on peut passer une soirée ou un moment sans parler et penser cancer et parler de toute autre chose, de la pluie, du beau temps, du dernier film ou etc etc, et c'est pas toujours évident parce que il y a encore est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai mal fait, est-ce que je n'ai pas été trop violent, alors qu'en même temps on sait que l'autre a parfois besoin de ce kick pour remonter à la surface quelque part.
Alors ce qui est important, c'est que c'est aussi important pour la personne qui accompagne de pouvoir aussi vider son sac, de pouvoir aussi aller exprimer que ce qu'il vit est difficile. Mais par contre, ce qui est important, c'est de ne pas le faire auprès de la personne qui est touchée par la maladie. Parce que elle doit déjà arriver à trouver la force en elle de surmonter la douleur physique, plus la douleur émotionnelle. Et si en plus, et on a, en tant que patient, on a souvent une forme de culpabilité par rapport à ses proches. On culpabilise de leur faire vivre ça, et ils méritent pas ça, on les aime, et on n'a pas envie de ça. Mais d'un autre côté, on est avec ça, et c'est comme ça.
Et vous n'avez pas demandé non plus à l'avoir.
Exactement. Voilà. Mais donc du coup, pour la personne qui est proche, c'est vraiment important de ne pas attendre de la part du patient qu'il le rassure. Ça, c'est pas son job. Le job de la personne qui est malade, c'est vraiment de prendre soin d'elle, de son énergie. Et en tant qu'accompagnant, c'est important d'aller recharger vos batteries à l'extérieur, en fait. D'accord. Que ce soit chez des amis, que ce soit en allant faire du sport, ou même en allant voir un coach, un thérapeute ou un psy. Mais vraiment recharger vos batteries à l'extérieur pour que vous ne puisiez pas l'énergie chez la patiente pour vous recharger vous, parce qu'on a souvent une tendance à, de nouveau, attendre que la patiente nous rassure, parce qu'on a nos peurs. Et donc, on a besoin que la patiente nous dise « ça va ?» Et on a besoin qu'elle dise oui, ça va, alors qu'elle le dit juste parce que elle se rend compte que vous avez envie d'attendre ça, mais d'un autre côté, ça va pas vraiment. Et donc du coup là, c'est un peu biaisé de nouveau, vous voyez.
D'accord. Est-ce que vous seriez d'accord avec moi si je dis tiens, à la fois le malade et l'accompagnant sont en état de révolte quand on vit ce genre de choses par rapport à la vie en général, ou bien est-ce que c'est moi qui me suis fait un film à cette occasion-là?
Alors quand on a ce genre de quand on traverse ce genre d'épreuve, il y a en effet un sentiment de révolte et quelque part il est
d'injustice aussi.
Oui, il y a en fait il y a un tsunami émotionnel. On a l'impression qu'on est un peu dans un truc d'auto-tamponneuse où on se prend des trucs dans les dents, et toutes ces émotions-là sont normales et c'est important de pouvoir les accueillir et de pouvoir justement s'en libérer pour les transformer en quelque chose de plus positif, pour justement avancer et se libérer au fur et à mesure de toutes ces émotions. Et ça, c'est vraiment le travail que je fais avec mes patientes, c'est vraiment essayer d'accueillir tout ça pour continuer à avancer plus sereinement, en fait, et se connecter à cette partie de soi qui n'est pas malade. C'est vraiment ça. Et ça, je pense que là-dedans, l'aidant proche a un rôle hyper important, c'est d'aider la personne à se connecter à la partie d'elle qui n'est pas malade.
D'accord. Est-ce que c'est juste aussi de dire que le moral et le côté positif et la vision positive des choses aident à des médecins qui parlent de 60 à 70, voire 80% à la guérison, ou en tout cas au fait de pouvoir survivre plus longtemps?
Oui, alors, pour faire très court, mais comme je disais, la pensée positive et le moral, oui, mais par contre, sans renier ce qu'on ressent vraiment. Parce que à ce moment-là, on s'enferme et on a besoin de se libérer. Ça, c'est quand même hyper important. Je voudrais juste encore dire un tout petit chose. C'est des épreuves qui sont terribles, mais si vous restez dans la communication, le respect des valeurs de chacun, je vous assure, vous en sortirez plus fort et plus soudé.
Eh bien, merci. Je pense que beaucoup d'auditeurs auront écouté cela avec attention. Merci pour votre sourire.
Avec grand plaisir.
Merci pour votre éclairage. Et cette fois-ci, Dieu sait qu'il est encore plus éclairant que d'habitude, puisque vous êtes passé par là, d'un et de l'autre côté de la barrière. J'ai envie de dire malheureusement, mais en même temps, quand on voit le résultat, voilà, top. À la semaine prochaine.
Merci beaucoup Didier, à la semaine prochaine.